Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Thomas Rozek. Avant de démarrer notre nouvel épisode, je voulais prendre le temps, au nom de l'équipe de Nos Ciné et de Binge Audio, de vous remercier, vous les auditeurs, qui avez grandement contribué à la réussite de notre campagne de financement sur Ulule. La campagne est finie, l'objectif est atteint, c'est un succès. Binge Audio va pouvoir continuer à grandir, et Nos Ciné aussi. Et ça n'aurait pas été possible sans vous, donc un très très grand merci. Voilà, place à l'émission, et à très vite.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui s'attarde sur le gros buzz de ce début d'année, le film, si on en croit les affiches qui inondent les allées du métro parisien, qu'il est impossible de ne pas aimer. Ce film, c'est évidemment La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle dont tout le monde parle. On va essayer de prendre un peu de recul sur cette frénésie avec les trois performeurs de la critique réunis autour de la table ici à l'Antenne Paris. Léa Baudin, salut Léa.
Salut.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Et Charline Roux, salut Charline.
Salut Thomas.
Allez, c'est Nos Ciné, épisode 68 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
La La Land, c'est donc l'histoire d'un duo, Mia alias Emma Stone, serveuse en attente du rôle qui lui permettra d'être actrice à temps plein, et Sébastien, Ryan Gosling, jazzman qui lui aussi rêve de grandeur, en attendant joue du piano dans des petits clubs. Les deux se rencontrent, tombent amoureux et s'embarquent dans la frénésie d'Hollywood, puisque tout ça se passe à Los Angeles. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Damien Chazelle qui avait gagné de gros points côté critique avec le très applaudi Whiplash, où il était déjà beaucoup question de musique. D'ailleurs, J.K. Simmons, qui tenait l'un des rôles principaux de Whiplash et de retour dans La La Land aux côtés entre autres de John Legend, Rosemary DeWitt ou Kelly Hernandez.
Maybe I'm not good enough.
Yes, you are.
Maybe I'm not. It's like a pipe dream.
This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.
Alors si on en croit les avis dithyrambiques d'une partie de la presse, on a ici affaire à la meilleure comédie musicale depuis Chantons sous la pluie, tant qu'à faire. Alors j'ai du mal à croire que sans Gene Kelly on puisse faire quoi que ce soit d'approchant, mais peut-être partagez-vous cet enthousiasme autour de la table, à vous de me le dire, qui commence. Charline, tu
mais
souris,
comme
tu ris,
tu es.
Comme je suis. Excuse-moi,
le mot qui me semble le plus adéquat pour ce film est délicieux, vraiment.
Délicieux.
Non mais je vois.
Petit macaron la durée.
Exactement. Enfin non, c'est un peu trop moins sucré quand même.
D'accord. Ça a l'air pourtant sucré. Hein.
Ça l'est pas vraiment en fait. Ce qui est assez malin, notamment sur tout le début du film, c'est que tous ces moments chantés qui pourraient justement être trop sucrés, trop romantiques, sont systématiquement cassés par une incursion soit du réel pas très sympa, soit d'éléments extrêmement triviaux dans les scènes, ce qui rend tout ceci, en plus d'être assez beau, assez drôle. Chazelle a un vrai talent pour filmer la musique, vraiment, après qu'on aime le genre comédie musicale ou pas. Il y a un côté un peu, c'est comme quand quelqu'un vous dit fais donc de la luminothérapie, ça te fera du bien. C'est-à-dire que même si on n'y croit pas, ça vous fera pas de mal d'y aller en fait, c'est ça que je veux dire. J'ai été charmée pendant tout le film, pendant tout le début du film, et les 10 minutes de fin m'ont carrément au-delà d'enchanter. Les 10 dernières minutes
sont absolument...
Non, je ne spoil pas.
Pourquoi tu ne
pas parce que c'est pas très sympa. C'est-à-dire que les 10 dernières minutes du film sont absolument magiques. Tant sur le niveau de la réalisation que sur la fin de l'histoire, qui n'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est vraiment absolument charmant. Il y a un vrai travail sur, non pas la couleur, mais les couleurs, et pas la lumière, mais les lumières. Les deux sont absolument à croquer. Je trouve Emma Stone très bien, hein, comme tout le temps. Je trouve que lui, Ryan Gosling, est vraiment un cran au-dessus. Si je peux me permettre. Il y a un côté feel good movie et en même temps avec un vrai supplément d'âme. Le film est absolument pas agaçant. Les chansons sont évidemment très très réussies. Après, si j'ai juste une réserve, on sent le potentiel de haters qui va pas tarder à arriver, se ruer sur ce film. Il est même déjà là.
Il est là. C'est David Honora.
En revanche, ce que je peux juste dire, c'est que l'appellation qu'on voit partout sur les affiches, le meilleur film de 2017, est un truc hyper
lourd
à faire porter.
En janvier 2017, ouais, non,
c'est un truc qui est trop lourd à faire porter à ce film. Qui ne mérite pas cette appellation, qui va le plomber, en fait. Voilà.
Léa.
Moi, je suis absolument conquise. Je suis comme Charline. Je suis tombée amoureuse de ce couple instantanément. C'est vrai que... Alors moi, je trouve qu'Emma Stone, au contraire, livre une performance qui est complètement époustouflante. Et je pense que... Enfin, j'espère qu'elle va avoir l'Oscar. Enfin, pour tout vous dire, j'espère que le film va avoir absolument tous les Oscars pour lesquels il est nommé.
Il est calibré pour, j'ai bien l'impression.
Il est totalement calibré pour, mais ce qui fait du bien, c'est que c'est un vrai, vrai, vrai bon film. Ce qui est quand même pas toujours le cas dans les nominations aux Oscars. Et... moi, c'est ce que je trouve extraordinairement réussi. J'étais pas une très grande fan de Whiplash parce que je trouvais ça très froid, même si c'était mon volontaire au vu du sujet. Mais là, il y a une vraie émotion, mais de bout en bout. Et c'est un tourbillon et la mise en scène est incroyable. La mise en scène, c'est pas que les mouvements de caméra, c'est vraiment les décors, les costumes, la musique est vraiment génialissime. Enfin, il travaille toujours avec le même compositeur qui est un copain de lycée, je crois, ou d'université. Et on sent que en fait toute l'équipe du film est au diapason et franchement, enfin, quand on lit la critique du Time sur les affiches, qui est proche de la perfection. Moi, je trouve que vraiment, le film est assez proche de la perfection et il n'est jamais agaçant, jamais...
Après, c'est un vrai film qui est taillé pour les Oscars. Les Oscars, c'est fait pour récompenser les films. Et là, c'est un film qui rend hommage au cinéma. Oui. Donc, de toute façon, on savait qu'il y serait.
Est-ce que tous les bons films ne parlent pas de cinéma, quelque part?
Mais en même temps, c'est plus que ça.
Oh là,
c'est pas qu'un film qui parle de cinéma. Enfin, il y a plein de choses. C'est vrai que c'est aussi un film qui gagne à être revu. Moi, pour le coup, j'ai eu la chance de le revoir déjà une deuxième fois et en IMAX en plus, donc c'était juste une expérience magique. Et il y a plein de sous-textes, il y a plein de choses. Enfin, on peut vraiment y trouver ce qu'on veut. Et franchement, il faut juste se laisser emporter parce que pour moi, c'est un vrai tour de force ce film, franchement.
David, la voix de la discorde autour de cette table.
Oui, alors,
tu vas mettre un peu d'eau dans ce vin.
Taillé pour les Oscars. Oscar. Effectivement, c'est un film pour Hollywood qui parle d'Hollywood. On pourrait aussi mettre un bémol en disant que c'est un film de blanc pour les blancs. Et moi, c'est un des aspects qui me pose quand même pas mal de problèmes dans le film, qui est un film sur le jazz qui fait incarner à Ryan Gosling, le défenseur de ce que doit être le jazz dans toute sa pureté, et qui met sur les épaules de John Legend la perversion de la musique, moi, ce qui est à mon avis un peu problématique en fait. Et puis, par ailleurs, c'est un film qui se passe à Los Angeles, qui est une des villes les plus latino d'Amérique, mais apparemment c'est pas arrivé jusqu'au réalisateur. Ce qui me déçoit en fait au-delà du fait que par ailleurs c'est un film plaisant, il y a une très bonne BO, comme on l'a dit, Damien Chazelle sait filmer la musique, sait faire voir la musique, la faire ressentir par la mise en scène, par le montage essentiellement, et c'est des qualités qu'on avait déjà pu voir dans Whiplash. Le problème, c'est qu'il fait un film finalement qui n'est rien d'autre que ce qu'aurait pu être une comédie musicale il y a 50 ans, et qui en reste en fait dans une sorte de pastiche. Pour moi, je vois pas ce que ce film apporte en 2017. Et du coup, je le compare à ses aînés. On a parlé de Chantons sous la pluie, mais on peut parler de All That Jazz ou de films comme ça. Mm. Quand on le compare à ces aînés-là, le film n'est pas du tout à la hauteur de ces aînés. Quoi.
Mais est-ce que ça lorgne pas plutôt du côté de la comédie musicale à la française que de la comédie musicale hollywoodienne? En tout cas, sur les influences comédie musicale. Après, il y a un côté hommage à Hollywood. Après, ce que je trouve super dur dans ce que tu dis...
Quand tu dis comédie musicale à la française, tu parles
des demoiselles.
De Notre-Dame de Paris ou des Demoiselles de Rochefort?
Mais je vais te frapper, Thomas Rozek. Je trouve ça super dur, l'accusation de... On fait incarner à Ryan Gosling cette image du jazz hyper pur et dur, et à John Legend, le mec qui vient pervertir, tous les styles de musique en prennent pour leur grade. C'est-à-dire que la vanne sur la pop musique très blanche, quand la scène où Emma Stone lui demande, je sais plus si c'est dans un mariage ou je sais plus quelle fête, de jouer Iron, cette espèce de truc super blanc, super pop blanche anglaise de je sais plus quel One Hit Wonder, et que derrière elle l'appelle George Michael, c'est pareil. Enfin, il y a la même distribution pour moi sur la musique et ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Et Après, je trouve vraiment cette accusation super dure, en fait.
Et moi, là où je suis pas non plus complètement d'accord, c'est que le personnage de Ryan Gosling, il est quand même extrêmement cynique. Il est toujours, enfin, pour moi, il y a un énorme recul, justement, du réalisateur vis-à-vis de son sujet. Et en même temps, il parle un peu de lui. Donc, nécessairement, je pense que on a un personnage qui est blanc. Je pense pas qu'il y ait une volonté d'occulter. Enfin, c'est toujours très cynique. Le passage où, justement, il dit qu'il y a le bar à tapas ou je sais plus trop quoi, là. C'est quand même très, tout est quand même toujours subtil et il n'y a pas un truc de... Je ne pense pas qu'il y ait du tout cette volonté de rendre le Hollywood blanc et le... En même temps, Hollywood, c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de diversité à Hollywood, donc à partir de là...
Et justement, c'est, le film est extrêmement nostalgique, mais moi, me paraît justement nostalgique d'une époque où la diversité ne pouvait pas
alors,
exister.
Alors là où c'est intéressant, c'est que, bon, pour le coup, moi, j'ai eu la chance d'en parler avec Damien Chazelle la semaine dernière, et lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que sa volonté, c'était aussi de faire un film critique sur la nostalgie. Et je trouve que, ben, en particulier au deuxième visionnage, c'est quelque chose qu'on sent assez bien dans le film, en fait.
Je trouve qu'il y a beaucoup d'ironie, vraiment. Enfin, quand je dis les incursions, les incursions du réel ou de la trivialité dans des scènes d'ultra-romantisme ou d'ultra-chanson où normalement on ne coupe pas la chanteuse quand elle est en train de faire son solo ou on ne coupe pas une actrice quand elle est en pleine scène d'émotion. Tout ça est cassé systématiquement pendant tout le film. La grande scène d'audition du début où elle est devant deux casteurs et qu'elle joue sa scène d'émotion et que d'un seul coup elle se met à pleurer et que la porte arrière s'ouvre parce qu'il y a une nana qui vient demander à la chef casteuse si elle veut pas un sandwich. Voilà, ce ressort-là revient quasiment tout le temps dans les moments où il y a trop de sucre, presque.
Ouais, ça, je suis d'accord, et c'est une des qualités du film qui est assez bien écrit et qui, en fait, disserte sur la nostalgie et justement, je modère un peu ce que je disais sur le rapport au jazz qui paraissait caricatural. C'est pas aussi net que ça, et justement, c'est mis en question. C'est est-ce que la musique doit évoluer, comment elle doit évoluer, etc.
Parallèle, c'est aussi une réflexion sur le cinéma, je pense.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, les autres réserves que j'ai sur le film, c'est aussi des réserves sur la mise en scène. Il y a une scène de dispute très importante au cœur du film, qui est avec une musique très discrète. À un moment, le film fait la critique du jazz qui est devenu une musique d'ascenseur, et ironiquement, on se retrouve un peu avec ce type de musique. Et j'ai l'impression que quand la musique est pas là pour porter son montage et son découpage et sa mise en scène, il se retrouve un peu perdu. Et cette scène est développée entièrement en chant contre chant, de manière très plate. Ce qui peut être un choix de mise en scène, justement,
c'est un basculement aussi.
De faire un basculement, mais
sans vouloir spoiler
pour moi, est surtout un manque d'idées de mise en scène. C'est-à-dire que du coup, dans une des rares, enfin, en fait, dans la scène inaugurale, qui est une scène hyper flamboyante dans la mise en scène avec énormément de mouvements de caméra, avec de la danse. Parce que ça, pour moi, c'est le deuxième gros problème du film, qui est une comédie musicale avec deux acteurs principaux qui ne savent pas danser. Donc, ils s'en cachent même pas. C'est-à-dire, comme ils ne savent pas danser, ils ne dansent pas. Donc, ils marchent en rythme. Mais c'est quand même un problème. Mais c'est vrai qu'on
revient... Rendez-nous Gene Kelly.
Quand on revient sur Gene Kelly et quand on revoit Chantons sous la pluie, on est ébloui. Et pour le coup, la caméra ne fait pas grand-chose. Elle reste en plan large et en plan séquence. Et elle suit des danseurs extraordinaires. Voilà, là on fait porter une comédie musicale par deux acteurs qui savent pas danser.
Oui, mais je trouve qu'encore une fois, ça marche dans ce côté ce qui est magique va être cassé par un truc trivial, et inversement aussi, le fait qu'ils sachent pas danser, moi ça me dérange absolument pas. Je trouve ça même plutôt mignon et gauche. Et d'ailleurs, les scènes où ils dansent, c'est des espèces de scènes de séduction dans lesquelles ils sont justement mignons et très très gauches. Et cette scène de dispute dont tu parles, pour moi, c'est le tournant du film, en fait. C'est effectivement la seule scène où on n'entend pas beaucoup la musique, en fait, et où il se passe un vrai truc, qui est la vraie incursion du réel dans leur histoire à eux, parce que tout le reste, on sait pas trop, en fait, où se situer. Donc je trouve ça plutôt malin. Et la scène inaugurale dont tu parles, effectivement, ça chante, ça danse, c'est flamboyant, mais c'est quand même une scène d'embouteillage. Donc encore une fois, il y a une espèce de truc à deux étages, de regarder comme c'est beau, regarder comme il chante, regarder comme il fait beau, regarder comme il y a de la couleur, et on est en plein milieu de voitures qui sont cul à cul. Donc je trouve que ce mélange marche assez bien.
Voilà, et puis après, il y a plein d'idées intéressantes quand même dans le film, notamment au niveau des couleurs. Et là c'est... Alors le film sort même dans un format...
Oui,
inaugure
super,
un nouveau format.
Supercolor, ou je ne sais le nom...
Il y a Color
dedans, je suis à peu près certain. Il est projeté dans quelques salles à Paris, ouais, dans ce format-là.
Exactement, ça peut valoir le coup d'aller découvrir ça. Je crois que c'est 4 salles Gaumont. Mm. Et puis par ailleurs, voilà, il y a tout un. Mais pour moi, un discours un peu cynique sur Hollywood qui est un peu rebattu, quoi. Le côté montrer l'enchaînement des saisons alors même que finalement le soleil reste le même.
Il y a un truc absolument extraordinaire que j'ai remarqué au deuxième visionnage, c'est que à un moment il se passe un truc terrible entre deux. Enfin, ça marche pas, quoi. Il y a un truc qui marche vraiment pas du tout, et là, bim, fall. Et en fait, j'ai lu fail, quoi. Et j'ai trouvé ça juste génial, en fait. Voilà, petite anecdote.
Petite anecdote au passage. Merci, Léa. C'est éclair color, la technologie utilisée. Éclair color. J'ai cherché, entre-temps, j'ai trouvé. Ça fait un petit peu peur. Et effectivement, je crois qu'on ne vous réconciliera pas à 100% sur ce film. Chacun a quand même dit ce qu'il avait à dire. C'est très bien. Mais pour conclure, on va faire quand même, comme d'habitude, une petite série de recommandations. Si possible, on reste dans l'univers de la comédie musicale. Ça n'est, comme toujours, pas obligatoire à 100%. Charline, tu te marres dans ton coin. C'est toi qui vas commencer, du coup.
Ouais, bah oui. Mais de toute façon, c'est le moment où, généralement, moi, je prends des morceaux de bois, des cailloux, mais je m'en fous. J'ai déjà fait mon coming out. J'aime les films hystériques ici. Et du coup, ça va être un grand écart total. Vas-y. Avec La La Land. Et ben, Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Ah, on crie, on chante, on danse, on chante bien, on danse bien. Il y a de la couleur, ça fait mal aux yeux. Le tango de Roxane est absolument magnifique. Je me lasserai jamais de ce film.
Baz Luhrmann.
Voilà. Et ouais, Luhrmann. C'est comme ça.
Baz Luhrmann.
Baz Luhrmann. Okay. Pour toujours.
Ouais, c'est ça. Ouais. Vomis. David.
Moi, je voudrais revenir sur le fait que
tu dis Baz Luhrmann, c'est fini, hein, c'est fini entre nous.
sur le fait qu'on a pu avoir l'impression, justement, avec La La Land et la manière dont il était vendu, que c'était le grand retour de la comédie musicale et qu'on n'en avait pas vu depuis des années, et que la comédie musicale, c'était forcément des claquettes et du jazz un peu rétro. Moi, j'ai même plusieurs films à conseiller pour montrer qu'en fait, il y a des comédies musicales modernes. Si on aime plus la danse, je conseille la série des Sexy Dance, et en particulier le 3, Sexy Dance 3D, qui est un film extraordinaire, vraiment.
Qu'est-ce qui est en train de se passer?
C'est un peu plus classe en anglais, c'est Step Up.
Ouais. J'avais vu les affiches, ça n'avait pas l'air super classe, mais je te fais confiance.
Le troisième opus de Sexy Dance, est à voir en 3D.
D'accord.
Et en fait, chacun des numéros de danse sont 3, 4, 5, 10 crans au-dessus de ce qu'on voit dans La La Land.
Okay.
Si on est plus sur le champ, il faut voir la série Pitch Perfect.
Oui, ça c'est vrai.
The It Girls, titre français complètement pourri.
Tout à fait.
Et puis après, une des raisons aussi pour laquelle le genre des comédies musicales a un peu régressé et disparu du cinéma, même si c'est un des genres fondateurs, Scorsese le classe à côté des westerns et des films de gangsters comme vraiment les films, le troisième genre essentiel à Hollywood. Si ça a un peu disparu, c'est aussi parce qu'en fait, entre temps, il y a eu MTV, il y a eu les clips et le fait de mettre la musique en image, ça existe d'une autre manière. Et je conseille de voir ce qui est un film, c'est Lemonade de
Beyoncé,
qui est un film à part entière. Et j'aimerais bien en fait voir des films au cinéma avec ce genre de stars qui utiliserait en fait le format cinéma, de faire un film de 1h30-2h. Avec ce genre de star, voilà.
Charline, David.
Je ne me moque pas, je suis très admirative. Tu n'aimes pas La La Land car Emma Stone est trop vieille, de toute évidence, vu les trois films que tu viens de conseiller.
J'aime pas trop Emma Stone.
Ah voilà, mais c'est voilà le fond du problème, David. Mais il n'y a que des amis, si tu peux nous en parler, il n'y a pas de souci. Léa, pour finir.
Alors moi, je vais conseiller une autre comédie musicale qui est un vrai feel-good movie, selon moi. Ça a été Hairspray. La version avec John Travolta que j'ai trouvé juste un petit bijou. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à voir ce film, et le fait d'en parler, ça me donne envie de le revoir.
Et ben voilà, le programme pour la soirée après l'écoute du podcast. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Julia La Technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Vous pouvez retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. N'hésitez pas à noter favorablement, si possible, ce merveilleux podcast sur iTunes, ça ne peut que lui faire du bien. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizi. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.